Hoje é dia 24 de setembro de 1998 e a entrevista que se segue é com o professor Agege.
Donc, vous revenez dans ces jours au Brésil? Oh, qui parle de ton portugais ou brésilien? On va souvent critiquer en disant on ne peut pas parler du brésilien.
Bon, alors, je vous signale que si on prend comme critère les méthodes les plus connues, on constate avec surprise que la méthode Assimil, qui est très célèbre, a publié un brésilien sans peine et un portugais sans peine, deux livres distincts. Quand on les regarde, on cherche longtemps pour trouver des différences morphologiques, syntaxiques, lexicales déjà un peu plus, parce que le brésilien a fait beaucoup d'emprunt aux langues indiennes, aux langues africaines, c'est normal, qui appartient à sa culture, à sa civilisation. Mais morphosyntaxique, c'est-à-dire pour moi, linguiste professionnel, ce qui est le noyau de la langue, la morphologie, la syntaxe, il n'y a à peu près aucune différence, sauf peut-être certaines choses, lembra me lembra, me lembro, donc il y a des, la place du pronom personnel atone avant ou après le verbe, diga, yeye, diga, il y a des petites différences, donc de
donc il faut parler de portugais et portugais du Brésil.
Je pense qu'il faut dire portugais du Brésil, mais nous n'avons pas vraiment de différence fondamentale suffisante pour parler du brésilien et du portugais. Et j'ajouterais que en ce qui concerne la phonétique, qui est un domaine très important, alors là, c'est vrai qu'on a des prononciations tellement différentes qu'elles permettent d'identifier. Nous avons uma avec accent sur u, mais uma avec le a, et nous avons au Portugal uma, le prénom Maria, au Portugal Maria. Bon, les a non accentués restent des a en brésilien, en gros, mais deviennent des E en portugais. Bon, tout à l'heure, nous avons parlé, les abstraits en on, révolution, constitution, c'est aucune différence, c'est la même chose. Les abstraits en ad, libertade, portugais, libertade, ou l'autre jour, j'étais à Rio de Janeiro, au restaurant, et le directeur a dit, bon appétiti, c'était presque bon appétiti. En portugais, on n'entend jamais ça, c'est bon appétiti, donc, il y a des différences, mais elles ne permettent pas de dire qu'il y a deux variantes. Pour
mais,
moi, c'est une seule.
Monsieur, pensez-vous qu'il y aura à long terme des conséquences de cette fermeture des voyelles au Portugal? Je vais vous dire pourquoi je vous pose cette question. J'étais avec monsieur Eduardo Prado Coelho, qui était l'attaché culturel, et il m'a dit, voyez-vous, si au Portugal, on ne comprend plus Camões. Ce sont les Brésiliens qui comprennent le Camões.
Parce qu'à Camões, les voyelles étaient encore pleines. Elles n'étaient pas devenues centrales.
Alors, moi, je me demande si à long terme, il n'y a pas des conséquences, c'est-à-dire de séparation de ces langues.
Bon, alors là, je ne suis pas prophète, chère madame, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'évolution des langues se fait toujours d'une façon assez imprévisible, stochastique, en large mesure, que jusqu'ici, on a une raison de penser que l'évolution n'ira pas jusqu'à une incompréhension ou une impossibilité de communication entre la variante brésilienne du portugais et la variante européenne du portugais. Et la raison pour laquelle je dis qu'il n'y aura pas ça, probablement, c'est que ça fait des siècles que c'est comme ça et que depuis des siècles, ça n'a pas empêché la communication de se faire. Il est absolument vrai que le brésilien est plus fidèle au portugais ancien que le portugais moderne.
Ouais.
Parce que le portugais moderne continuait à garder leur timbre ouvert aux voyelles atones. Les voyelles atones sont devenues des E, les A atones sont devenues des E dans la variante européenne, elles sont restées des A, bien qu'elles ne portent pas l'accent dans la variante brésilienne, mais cette évolution n'a pas empêché jusqu'ici les deux de communiquer, donc disons, la chose me paraît. Il faudrait aussi citer quand même l'Angola, la Mozambique, les îles du Cap-Vert, les autres pays lusophones du monde, et vous savez très bien que l'accent angolien, mozambicain, c'est l'accent portugais, du Portugal.
Ouais.
Ça n'empêche pas que ces gens, quand ils vont au Brésil...
Bon.
Nous savons que beaucoup de Noirs brésiliens sont d'origine angolaise. Il n'y a pas de langue.
Alors, bon, je continue encore un peu sur la lusophonie. Le Brésil est aussi un pays d'immigration. Les mariages mixtes sont monnaie courante. Comment doivent-ils prendre les parents qui souhaitent transmettre leur langue respective à leurs enfants? Les Brésiliens ne pensent pas beaucoup à ça, mais je pense qu'il serait temps qu'ils commencent à en faire des questions. C'est pour ça que je vous la pose.
Parlez-vous des parents immigrés?
Ouais.
Votre question concerne les familles
immigrées ou fils d'immigrés.
Eh bien, écoutez, quand on va dans un pays où on émigre, la première chose, le premier devoir, c'est de mettre les enfants à l'école de ce pays pour qu'ils apprennent sa langue. Par conséquent, les parents, disons libanais, disons chinois, disons allemands, qui arrivent au Brésil, n'ont pas autre chose à faire que d'apprendre à leurs enfants le brésilien, par définition.
Oui, de garder aussi
la... Bon, alors, la conservation de la langue d'origine est un problème qui se pose aux États-Unis, au Canada, au Brésil, dans la plupart des grands pays d'émigration d'Amérique, comme du reste du monde. Alors ça, c'est un problème personnel. Je peux vous dire que moi, ma position est très simple. En tant que linguiste, c'est-à-dire que grand amoureux des langues, que fou des langues, pour moi, c'est un désespoir quand une langue disparaît sous la pression de la langue du pays d'immigration. Et c'est une joie quand les gens réussissent à la maintenir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça dépend de la force de cette pression. Aux États-Unis, la pression est très puissante, si bien que ce pays qui est peut-être un des plus grands, qui était un des plus grands melting pots du monde entier, c'est un pays où les gens d'origine, je prends exprès des langues très connues, lituaniennes, ukrainiennes, ou thaï, ou vietnamiennes, ont presque perdu leur langue. C'est moins vrai pour les gens d'Asie du Sud-Est, parce que l'immigration est plus récente, et qu'ils sont souvent allés en Californie, où ils sont plus près, enfin moins loin de l'Asie. Et donc, il y a aussi une forte cohésion. Mais disons, au moins ceux qui sont d'origine européenne, surtout d'Europe du Nord, eh bien, je constate avec chagrin que ceux dont l'immigration remonte, je parle des États-Unis, pas du Brésil, à la fin du siècle passé, au début de ce siècle, ont été totalement américanisés. Le Brésil est un pays d'immigration plus récente. Et par ailleurs, j'ajoute que le portugais du Brésil, comme le portugais en général, est une langue beaucoup plus tolérante et beaucoup plus ouverte que l'anglais d'Amérique du Nord. Donc j'ai l'impression que la conservation des langues d'origine des familles néo-brésiliennes venant d'étrangers est beaucoup plus probable au Brésil pendant longtemps qu'elle ne l'est dans l'Amérique du Nord. Cela dit, le danger de disparition est un danger extrêmement simple, nous connaissons très bien les raisons. L'enfant va à l'école, avec ses camarades il parle la langue de l'école, la langue du pays, avec ses parents il parle, quand les parents le souhaitent, la langue de la famille, mais à un moment donné, pour ne pas paraître quelqu'un qui est déraciné, il est de plus en plus attiré, de plus en plus aimanté par la langue locale. Si bien que la disparition des langues d'origine des familles, au Brésil comme aux États-Unis, malgré les réserves que j'ai faites, est une menace, est une menace énorme, et contre la quoi n'a pas de mouchard.
Les Brésiliens apprennent d'abord l'anglais, mais ils appartiennent aujourd'hui au Mercosur. Y a-t-il danger pour un lusophone d'apprendre l'espagnol et réciproquement, sachant que les deux langues sont intercommunicantes et parfois si proches que le risque de contamination est toujours à craindre? Autrement dit, ne vaudrait-il pas mieux que chacun de ces deux groupes communique avec l'autre dans sa langue?
Vous voulez dire un hispanophone en espagnol, un lusophone en portugais? C'est évident. Cela étant dit, c'est une chose que j'ai toujours moi-même prônée. J'ai pris l'exemple de l'Europe du Nord. Le suédois, le norvégien et le danois sont des langues tellement proches que c'est presque une seule et même langue. Les gens de Copenhague parlent en danois à des gens de Oslo qui répondent en norvégien ou à des gens de Stockholm qui répondent en suédois. Bon, la proximité entre le lusitanien et le castillan n'est pas aussi grande qu'entre le norvégien et le suédois. Elle est quand même très grande. Alors, à mon avis, l'idée de la dernière partie de votre question est une idée excellente que j'ai moi-même souvent déjà décrite. Il est très très bon que les lusophones et les hispanophones communiquent chacun dans sa langue. Cependant, en raison des petites distances, pas énormes, des petites distances entre les morphologies et le syntaxe de ces langues tellement proches étymologiquement, qui sont des langues que nous appelons néo-latines, en raison des petites distances, l'apprentissage de la langue de l'autre me paraît quand même une nécessité. Quant à la première partie de votre question, excusez-moi, mais c'est une implication complètement ridicule, je ne vois pas en quoi l'apprentissage de l'espagnol peut être une menace pour le lusophone. C'est absurde. L'apprentissage d'une langue très proche, c'est un apprentissage un peu plus difficile, peut-être parce que trop de choses se ressemblent, mais qui donne certainement de très bons résultats s'il est fait comme pour n'importe quelle langue. Il n'y a aucune raison que l'apprentissage de l'espagnol soit une menace pour un lusophone du Brésil, comme au Portugal. Donc, maintenant, pour me résumer, il est très bon que chacun parle dans sa langue, mais pour conjurer et pour éviter les cas d'incompréhension, l'apprentissage de l'autre langue est non seulement une chose importante, mais pour les Brésiliens et les Argentins, mettons, ou Uruguayens ou Chiliens, c'est une nécessité. Et en tout cas, beaucoup plus nécessaire que l'apprentissage de l'anglais américain, qui est une langue de gens éloignés. Donc l'américanisation des Brésiliens, est une insulte à la latinidad. Je suis absolument aussi. Et les Brésiliens sont très fortement américanisés. Malheureusement.
Ouais. Quelle est la place ou l'importance du portugais en France?
Extrêmement faible. Je connais l'inspecteur général de portugais en France, Madame Solange. C'est ça, exactement, qui se plaint tout le temps de la très grande faiblesse d'enseignement du portugais. Je dirais même que si le portugais n'a pas totalement disparu en France, c'est parce que d'après récemment, en 1985 je crois, les Portugais, chez qui l'enseignement du français était et est encore très important, bien plus que le réciproque, ont menacé la France que si l'enseignement du portugais en France ne faisait pas de progrès, le Portugal passerait à l'anglais. Et cette menace légitime du gouvernement portugais, du ministre de l'éducation nationale portugais, a amené l'éducation nationale française à réfléchir un petit peu, et pour ne pas entraîner la disparition, ou la quasi-disparition, ou le remplacement plus que partiel de l'enseignement du français par celui de l'anglais au Portugal, le gouvernement français a accepté de donner au portugais un petit peu plus de place, ou plutôt un petit peu moins d'absence. Malgré cette petite réforme qui remonte à une dizaine d'années, le portugais reste une langue très peu enseignée dans ce pays, et même dans les pays frontaliers, c'est-à-dire les Pyrénées, la partie de la France, malheureusement, nous n'avons pas de frontière commune avec le Portugal, nous avons une frontière commune avec l'Espagne, très importante, mais même avec cette différence.
Nous avons donc...
Vous pensez que c'est à cause de cette frontière commune ?
Probablement. J'ai fait une...
Ça me paraît
pas évident, mais ça me paraît une des raisons. J'ai fait pour Hachette, il y a quelques années, une carte des langues de l'Europe. Et dans cette carte, j'essaye de montrer, avec les proximités, etc., une carte que j'ai faite et qui est maintenant utilisée dans toutes les écoles, j'essaye de montrer, bon, à la suite de la dislocation de l'Union soviétique, tous les problèmes qui étaient posés dans les parlements slaves, qui sont en jaune ici, en jaune-vert, j'ai essayé de montrer tout ce qui se passait pour les autres langues, et pour les langues romanes, qui sont en bistre ici, on voit bien, en dehors du basque, qui est un cas unique, très, très, très énigmatique, mystérieux, que nous ne savons pas d'origine, mais qui est finalement encore vivante après des millénaires, nous voyons bien que les proximités géographiques expliquent beaucoup de choses. Les gens qui prennent le plus l'espagnol à l'école sont les gens qui habitent à Toulouse, à Bordeaux, à Perpignan, etc., parce qu'il y a une visibilité, un voisinage. En revanche, malheureusement, nous n'avons pas de frontière commune avec le Portugal. Par conséquent, il n'y a pas beaucoup plus d'enseignants de portugais ou d'élèves qui prennent le portugais dans les villes du sud de la France que dans le reste de la France. Donc la situation géographique explique beaucoup de choses. Mon idée, c'est que pour faire quelques progrès à l'enseignement du portugais, il faudrait que on convainque, c'est ça la grande idée, et on n'y pense pas, alors que c'est évident, il suffit d'étudier le monde moderne, il faudrait qu'on convainque les responsables de l'éducation nationale française du fait que le monde lusophone est un monde immense. Il n'y a pas seulement le petit Portugal, mais aussi l'immense Brésil, l'Angola, la Mozambique, les îles du Cap-Vert, une enclave de Goa en Inde, probablement encore pour quelque temps, mais pas pour longtemps, Macao jusqu'à sa recivilisation. Nous savons, enfin je sais moi-même comme linguiste professionnel, qu'à Macao, en fait, ce n'est pas le portugais qui se parle, mais un créole du portugais, l'uso-créole, mais enfin bon, à base portugaise. Donc pour toutes ces raisons, je dirais que l'argument principal qui devrait valoir, ce serait de convaincre les parents d'enfants français que le choix du portugais est le choix d'une langue qui est la quatrième ou la cinquième langue du monde en nombre de locuteurs.
Oui, oui. Non, mais finalement, on se rend compte que c'est par la force que ça s'impose, hein, ça s'est imposé par la force.
Par la pression politique, en tout cas. Oui. Et économique.
Bon, à l'imitation de l'organisation des pays francophones, 7 pays lusophones ont signé l'année dernière un traité créant une communauté des États lusophones. Que pensez-vous de cette initiative ?
Excellente initiative. Excellente initiative. Qui donne bien à penser qu'il y a une prise de conscience, ce sont les pays que je viens de citer, plus quelques autres, une prise de conscience du fait que la lusophonie est un ensemble qui peut devenir puissant et sur le modèle du club francophone, devenir un club, le mot club est un mot français depuis 1731, donc ce mot comme un mot qui n'est plus un mot. Et donc il y a un club francophone comme un club lusophone qui est important et qui peut donner... avoir un développement de plus en plus grand. Cela dit, il y a tout de même des problèmes qui sont liés à la différence de normes orthographiques. Vous savez certainement que le Brésil et le Portugal, depuis longtemps déjà, sont en discussion pour savoir quelles normes orthographiques employer qui soient unifiées, parce qu'il y a, pour l'écriture, une norme portugaise et une norme brésilienne qui ne sont pas exactement les mêmes.
Voilà, j'aimerais savoir votre avis là-dessus.
Je ne peux pas exactement vous répondre parce que c'est un problème très technique, mais pour ce que j'en sais, la différence entre les deux donne lieu à des mises au point qui peut-être peuvent aboutir à quelque chose d'utilisable, disons, mais je ne sais pas dans quel délai, parce que nous avons affaire à une différence qui peut peut-être donner à réfléchir. Alors, si nous regardons le livre de Paul Tessier, qui est un des plus grands lusitanistes français, nous constatons que pour presque tout, pour montrer la différence, pour eux, je reviens à votre première question, pour la phonétique, la phonologie, il met souvent deux colonnes en présentant, c'est la même langue, mais quand on lit Potessi, on a presque l'impression que ce sont deux langues différentes. Au Portugal, au Brésil, on va voir l'orthographe.
pour le traitement, pour des problèmes de morphologie, de syntaxe, très souvent, il y a deux colonnes. Bon, ça, c'est autre chose. C'est peut-être plutôt la syntaxe est la même. Certainement, tu as des différences pourtant. Oui, tout à l'heure, on n'a pas assez dit. Ce qu'on appelle le infinitif conjugué me paraît beaucoup plus fréquent au Portugal qu'au Brésil. Il n'y a pas beaucoup d'infinitifs conjugués au Brésil, n'est-ce pas? Bon, il y a donc des différences aussi.
Vous voyez une phrase comme ça au Brésil.
Ne serait pas compris. Vous considérez comme de vieux portugais. Ouais. C'est exactement. Une phrase. Genre de Vesanga, c'est. Por yeouye, et ouye de derisque. Por ouke yodigo, comment on dit.
Oui, on utilisait ça. En plus, on mélange la deuxième et la troisième personne.
Exactement, exactement. Bon, c'est donc une différence. Mais sinon, disons que pour les différences d'orthographe, on va voir ça.
Elles sont là, monsieur.
Elles sont là. Je voulais voir s'il n'y a pas d'autres passages, parce que dans le livre de Tessier, il m'avait semblé, la dernière fois que je l'ai feuilleté, que nous avions un grand nombre de pages qui montrent des différences du Nord, mais je vois que la morphologie est quand même bien la même. On cite quand même des brésilianismes, n'est-ce pas? Des expressions qui sont tout à fait brésiliennes et qui ne sont peut-être pas employées. J'ai entendu au Brésil obrigadinho. Est-ce que ça se dit au Portugal? J'ai pas entendu.
Non.
C'est tout à fait brésilien. Obrigadinho. Avec un diminutif pour le mot merci, il paraît. Et même au féminin, obrigadinha.
Obrigadinha, oui, ça peut dire obrigada quand on est.
Obrigada, on doit dire obrigada. Récemment au Brésil, un Brésilien idiot, à qui j'étais avec une amie étrangère qui parlait très bien, elle a dit obrigada. Et le Brésilien, un Brésilien, mais inculte, a dit non, tem que precisa que dizer obrigado. Non. Alors elle a dit, mais non, son una mulher. Yes. Et il ne comprenait pas, c'était un Brésilien.
Ouais.
Bon. Alors, donc on a des différences. Importante entre les deux normes pour différents domaines, bon, surtout phonétiques, c'est peut-être beaucoup moins. Alors, en ce qui concerne l'orthographe, il y a eu donc une réforme, il y a eu des mesures brésiliennes, des mesures, bon, en 1931, le Brésil a adopté la réforme portugaise de 1911, et on a continué à avoir des différentes négociations à travers les années. En 1973, le Portugal, qui commençait à être vraiment très différent, chaque pays ayant fait sa réforme tout seul, fait un pas, une concession vers le Brésil pour l'accentuation, mais les différences restent toujours très importantes. Donc c'est vraiment un problème. Je cite ça simplement comme exemple du fait que la réunion des pays lusophones dont vous parlez, des sept pays lusophones, c'est une réunion de gens qui, vraisemblablement, sont conscients que l'unité est possible, mais qu'elle suppose quelques petites mises au point, notamment orthographiques. Et phonétiques, peut-être. J'ai entendu dire quelque chose qui vous amusera, mais ce sont des Brésiliens qui me l'ont dit, puisque j'étais à Rio au mois d'août, il n'y a pas longtemps, qui me disent que tout le monde sait que les Portugais sont les Belges des Brésiliens, on se moque des Portugais lourdeaux, un peu incultes, etc. Mais ça, c'est des gens simples aujourd'hui, mais que du point de vue littéraire, les écrivains portugais lus au Brésil sont considérés comme écrivant une très belle langue, beaucoup plus littéraire que tout ce qui s'écrit au Brésil. Est-ce que c'est vrai ou pas?
Écoutez, on va
les écrivains, hein. Oui.
Et je pense que ce sont deux littératures différentes.
Bien sûr.
Mais que. Si ce n'est que les grands Brésiliens contemporains sont ce que j'appelle des nouveaux lusophones, parce qu'ils ils opèrent à la manière de Camões, c'est-à-dire qu'ils mettent en valeur la langue orale. Hein? Non, il y a des grands écrivains dans la modernité.
Je sais bien.
Ce sont des écrivains qui travaillent à partir de l'oralité.
Non, c'est ça, c'est très bien ça.
Parce qu'il n'y a pas de langue constituée. Pour devenir un vrai écrivain au Brésil, il faut travailler à partir de l'oralité.
Oui.
Ça veut dire qu'il faut constituer ça.
Oui, il y a de très grands écrivains brésiliens. Très très grands, je suis entièrement d'accord. Et par exemple, cette merveilleuse écrivain d'origine juive, qui était tellement merveilleuse, Clarice Lispector, écrit une langue merveilleuse, et c'est une des plus grandes écrivains modernes.
Oui, elle est liée à l'oralité.
Liée à l'oralité. Bon, alors peut-être, moi je dirais ça comme linguiste, l'oralité au Brésil devient tout de suite beaucoup plus riche et beaucoup plus variée qu'au Portugal, parce qu'elle est liée aussi aux communautés qui parlent d'autres langues, noires et indiennes. Et il y a les emprunts de tous les mots.
Il y a tout le rapport, au rythme et à la musique d'un autre ordre.
Absolument. Si vous permettez que je...
Vous êtes d'accord, madame.
Je
l'ai dit au Salon du Livre que les Brésiliens sont des nouveaux lusophones.
Oui, mais
parce que justement, il y a une tendance à dire qu'on n'a rien à voir avec le Portugal, et à mon avis, tu me dessines.
On a à voir, mais on enrichit simplement. J'ai déjeuné à Rio une fois avec une charmante brésilienne, une très belle brésilienne métisse, très instruite aussi, qui m'a appris des choses en me disant « Ah oui, Caipira, un paysan brésilien,
oui.
Caipiresca. »
Caipirinha, c'est le poisson.
C'est le nom du poisson.
Caipiresca non existe. Ah, caipirosca.
Caipirosca, c'est une vodka.
Une marque de caipirinha.
Alors ça, elle m'a dit, on n'a jamais ça entendu au Portugal. C'est uniquement brésilien. De même, Malicia. La malice. C'est une sensitive. C'est le nom d'une espèce de sensitive, une fleur qui se ferme.
Non, c'est la... le substantif équivalent qui équivaut à malin.
Ah d'accord, c'est malin.
Une personne
maligne. Fecha a porta que o bon jardin. Fecha a porta que o bon jardin, c'est un proverbe.
Ouais.
Et qu'on emploie.
Bastien,
ferme la porte que déjà le bœuf arrive. On emploie pour dire quoi exactement?
Attention, c'est l'heure.
Ça veut dire attention. C'est l'heure d'un danger, de quelque chose. Elle m'a cité ça comme une expression typiquement brésilienne qui n'a pas entendu au Portugal. Surtout fecha a porta que o bon jardin.
Elle m'a dit,
bon, je citais juste parce que c'était ce que j'avais noté sur mon carnet au mois d'août, avec, il n'y a pas longtemps que j'étais au Brésil. Disons, il y a certainement, vous appelez l'oralité, des alimentations de l'écriture littéraire des écrivains brésiliens modernes qui sont liées naturellement à cette très riche oralité. Mais
c'est Mario de Andrade qui a inauguré ça dans les années 22.
Déjà Andrade,
oui,
ancien.
Il disait la chose suivante, il y a des Brésiliens qui appellent encore le Portugal, qui téléphonent encore au Portugal pour savoir comment on doit écrire. Ils se moquaient d'eux. Et c'est là que la rupture s'est faite, en 22, avec les modernistes.
Notamment ce qu'on vient de voir sur l'orthographe. Mais aussi, alors pour la langue, vous ne parlez pas pour l'écriture. Pour la langue.
L'écriture, c'est-à-dire qu'on commence à faire une écriture qui relève de l'oralité. Une utilisation de l'oralité. Mais à San Paulo, ça se passe.
Ah bon, à San Paulo, d'accord.
Voilà, on passe un peu à l'anglais, là.
Allons-y. Je ne suis pas du tout un ami de l'anglais, vous savez.
Oui, bon. Je vais l'enregistrer. Mmh. Alors, certaines universités américaines dispensent des cours d'anglais parlés en Asie, ce qui signifie que l'anglais connaît des variantes. La prépondérance de la langue anglaise n'est-elle pas en danger pour son unité, même en tenant compte du contrepoids unificateur des médias? Bref, va-t-on vers une fragmentation de cette langue, une unité relativement étrangère les unes par rapport aux autres, comme c'est arrivé au latin?
Bonne question. Bon, alors, il existe aujourd'hui, dans les cercles linguistiques américains, une nouvelle discipline, qui, naturellement, comme toute discipline d'allure terroriste, porte le nom d'un cible. Alors, ce sont des initiales que, si on ne les connaît pas, on ne comprend pas. Et qui s'appelle, je reçois presque chaque mois des articles, des travaux de collègues américains qui m'informent de ce qu'ils cherchent, qui s'appelle Non-Native Varieties of English. Non-Native Varieties of English.
Mm-hmm.
Et ces variétés non natives, non autochtones de l'anglais, c'est l'anglais indien, l'anglais thaï, l'anglais birman. Dans ces trois pays d'Asie du Sud-Est, l'anglais est langue officielle, inscrite dans la Constitution. Mm-hmm. Évidemment, les gens, les masses, les paysans ne parlent pas l'anglais, mais c'est langue officielle. Pour prendre maintenant trois exemples africains, l'anglais tanzanien, l'anglais kényan, l'anglais ougandien. Ouganda, Kenya, Tanzanie sont aussi des langues, cette fois-ci en Afrique, pas en Asie, dont naturellement les gens parlent des langues bantoues, soudanaises, ils ne parlent pas l'anglais, la masse, mais les intellectuels et la Constitution reconnaissent l'anglais comme langue officielle. Les chercheurs américains qui m'envoient leurs travaux et qui parlent des NNVE, Non-Native Varieties of English, considèrent ça comme un très grand danger parce que la manière dont ces gens non seulement prononcent phonétiquement ce qui est dit, vous avez entendu les Indiens parler anglais? C'est comique. Les Indiens parlent anglais avec un accent indien. C'est presque incompréhensible pour quelqu'un de Oxford ou de Chicago. On se moque souvent de la prononciation indienne. Mais ils parlent sans aucun complexe, c'est leur anglais à eux. Ils l'ont pris et il est dans leur constitution. Bon, autrement dit, on peut, selon l'aspiration de votre question, dire qu'en effet, dans le monde contemporain, l'appropriation de l'anglais, l'appropriation, mais le spouche qui est. Le prime primable, comme langue officielle, la sua constitution, pourrait constituer un péril pour la permanence officielle de l'anglais comme langue internationale. Mais ce n'est pas un péril pour la communication des Canadiens. Autrement dit, il y a un péril Un risque. À propos de risque, c'est intéressant, ça, j'ai remarqué, quand les Brésiliens, quand c'est une parenthèse, bon, reage, tanto reage, cento reage, dos reage, le R initial qui au Portugal est un re en Brésil. J'entends toujours reage, un risque, c'est re. Au Portugal, c'est re. Donc c'est vraiment une différence le R, hein. Bon, c'est une parenthèse. Bon, est-ce que c'est un risque? Moi, je dirais que, au fond, vous avez cité le latin. Le devenir de l'anglais comme langue internationale s'éparpillant en différentes variantes qui sont différentes selon les pays où ça se parle est un phénomène naturel pour toutes les langues qui se passent comme ça, et qu'en ce qui nous concerne, je ne vois pas pourquoi ce serait un danger. Comme je ne suis pas du tout un ami de l'anglais, ça ne me dérange pas du tout. Cela étant dit, comme vous l'avez vous-même dit d'ailleurs, c'est très juste, si l'anglais avait dû vraiment évoluer très fortement depuis déjà la fin du XVIIIe siècle, il aurait évolué aux États-Unis tellement différemment que l'anglais américain, l'anglais britannique, serait devenu deux langues. Or, l'anglais américain, l'anglais britannique, depuis 200 ans, ce qui est souvent une période suffisante pour une différenciation ou pour une créolisation, pour une pidginisation, sont restés presque la même langue, avec la communication sans aucun problème. Exactement comme portugais, lusitanien et brésilien, il y a une identification réciproque, immédiate. Il y a aussi une identification très facile, parce qu'on voit bien qu'il est anglais, mais la communication est évidente comme entre brésilien et portugais. Comment ça? Eh bien parce que, disons, la réponse au risque, entre gros guillemets, de dispersion de l'anglais, c'est la même réponse que pour les autres langues européennes exportées dans le nouveau continent, c'est que les relations, non seulement médiatiques, mais culturelles, commerciales, littéraires, sont tellement étroites qu'une norme identique reste toujours vivante. Et tant que ces relations seront importantes, cette norme restera. Bien que, dans les pays où l'anglais se parle, la variante locale de l'anglais soit de plus en plus différente de ce qui se parle à Oxford, ou à Chicago, ou à San Francisco, ou à Los Angeles, etc. En ma réponse.
Bon, alors, sauf circonstances imprévisibles, la mondialisation s'accompagnera de la diffusion de l'anglais. Néanmoins, vous n'hésitez pas à suggérer aux pays où se parlent des langues à diffusion limitée, comme aux autres d'ailleurs, à favoriser l'apprentissage d'une autre langue que l'anglais, réservant l'étude de celle-ci au collège. Pourquoi?
Voilà,
je pense que c'est une question sur tout
c'est
Jean-Carré. Pareil.
C'est le sujet même que je traite à Cuyard, c'est le dossier.
Mais je veux que ça paraisse un intérêt.
C'est le sujet même que je traite, et l'idée est la suivante. C'est que, comme vous le dites très bien dans la première partie de votre question, la mondialisation va... accentuer encore la présence internationale de l'anglais. Non seulement je suis d'accord avec cette première chose que vous dites, mais j'apporterai, si vous avez été une parenthèse qui va encore plus loin, un jour aux États-Unis, je me trouvais dans une réunion d'universitaires. Il y avait des gens très 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 importants, vraiment du sommet, car vous savez peut-être qu'aux États-Unis, les gens sont très heureux de se retrouver entre camarades anciens d'université, même quand ils sont devenus des ministres, des gens très puissants. Ils se retrouvent, ils appellent ça, d'après le mot latin, alumni. Alumni. Ils prononcent à l'américaine alumni, c'est-à-dire anciens élèves. Et ces réunions. Ils ont ça aussi. Parce que le Brésil est américanisé, c'est tout le Brésil. Mais le Brésil, qui est un pays latin, devient américain, alors qu'au lieu d'exploiter la veine latine, c'est ça l'erreur.
Ça, je me suis...
Vous avez raison de vous battre.
Venu en France.
Très bien fait.
Et je me bats beaucoup pour ça.
Le Brésil a une richesse latine, et au lieu de l'exploiter, j'ai vu ça au Brésil, il ne songe qu'à s'américaniser. Alors qu'il a une sève. Uma seiva. Latine, qu'il pourrait exploiter beaucoup plus. Bon, alors en tout cas, pour revenir à ce problème, me trouvant donc dans une réunion d'universitaires américains, dont certains étaient devenus des gens très puissants politiquement, ils pensaient qu'ils étaient entre eux. Ils ne savaient pas qu'il y avait un Européen, un étranger, et donc j'ai entendu des choses qui sont certainement à usage interne. Et j'ai entendu une chose qui m'a beaucoup appris. Le mot de mondialisation, dont les Européens se gargarisent comme si une chose extraordinaire et tout, a un sens très précis pour les Américains. Un d'entre eux a dit « Globalization is us !»« Globalization is us !» Voilà ce que ça veut dire. Vous savez que le mot, vous connaissez un peu l'anglais, le mot « global » en français est un faux ami. En français, « global » veut dire « en général ». En anglais, « global » veut dire « du globe », ça veut dire « mondial ». Donc, le mot qui veut dire « mondialisation » en anglais, c'est « globalization ». À partir du moment où vous entendez les Américains dire, quand ils pensent qu'ils sont entre eux et que personne ne les écoute, que la mondialisation, c'est eux, alors vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire que, sous prétexte d'égalité, démocratie, de merveilleux du monde, il s'agit, une fois de plus, de favoriser la domination économique, politique des États-Unis sur le monde. Alors la conséquence de ça, c'est c'est que dans ma modeste partie qui est linguistique, j'apporte une contribution.
Parce que la langue décide énormément de choses.
C'est parce que je pense que la langue décide de beaucoup de choses que il me semble utile.